Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir dans ce magazine de la vie au quotidien. Merci de nous suivre partout où vous êtes, à travers la République, à la maison, dans votre bureau, marché ou partout où vous êtes. Merci de votre fidélité à cette émission de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de la malaria, le paludisme, comment lutter efficacement contre le paludisme en République démocratique du Congo. Nous avons dans ces studios Dr. Danny Kasongo Kakupa. Il est expert en paludologie et chef des services de la surveillance intégrée et faire reculer le paludisme, cadre au programme national de lutte contre le paludisme. Dr. Danny Kasongo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission. Nous avons également sur ce plateau Dr. Marius Ngoi Bakua, chef des divisions en charge de la recherche opérationnelle et gestion et achat des stocks au PNLPI, Programme National de lutte contre le paludisme. Docteur Marius Ngoi, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, appelez déjà au 081 82 82 827. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de la rentrée scolaire 2025-2026 que revendiquent les enseignants. Parce que, vous le savez bien, certains disaient que les enseignants vont gréver, alors il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'il y aura reprise effective ou il y a encore des incertitudes? On en parle dans la deuxième partie de cette émission avec Serge Bondedi, secrétaire général de l'ASBEL IMAE, Young Men Action for Education. On aura également M. Hubert Kimbonza, inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Deb Sevita assure la mise en onde de cette émission. Et puis nous avons Naomi Moutoukié à la coordination et à la réalisation de ce magazine. Meshak Mboutamoutou est du côté de live sur les plateformes digitales. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien, dans cette émission Okapi Service aujourd'hui, nous parlons de la malaria, le paludisme. Vous savez, le palud est un problème de santé publique majeur en République démocratique du Congo. Il reste la malaria reste la principale cause de morbidité et de mortalité dans le pays. Et en 2024, la RDC a enregistré des dizaines de millions de cas et des milliers de décès, avec une part significative des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Les moustiques qui transmettent la maladie sont présents dans nos maisons, à la tombée de la nuit, même pendant la journée. Dans certains coins, les moustiques piquent même pendant la journée et résistent parfois aux insecticides. Alors, quelles sont les stratégies efficaces pour lutter contre le paludisme? Comment prévenir cette maladie. Quels sont les symptômes du PALU? Quel est le traitement approprié? Nous allons aborder toutes ces questions avec nos invités. Nous démarrons avec Dr Danny Kasongo Kakupa, qui est expert en paludologie, chef des services de la surveillance intégrée et faire reculer le paludisme et cadre au programme national de lutte contre le paludisme. Dr Danny Kasongo, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste.
D'accord. La première question de savoir, c'est quoi le PALU?
Merci beaucoup pour la question. Avant peut-être de commencer notre émission, je voudrais saluer tous les auditeurs et les internautes qui nous suivent en ce moment. Et vraiment de le féliciter parce que c'est une émission assez importante et sur laquelle nous allons aborder des questions de la malaria, des questions du paludisme dans notre pays. Mm-hmm. Et comme vous le savez, le paludisme est un problème majeur de santé publique dans notre pays. Alors, ce qui fait que au niveau mondial, si vous voyez les statistiques, sont vraiment alarmantes. Et aussi même au niveau africain
et national.
Oui. Et donc en 2023 déjà, selon le rapport de l'OMS, de l'Organisation mondiale de santé, on a estimé 263 millions de cas de paludisme dans le monde. Et avec 597 000 décès au niveau mondial, ce qui fait que si on compare ces données avec les données de 2022, il y a au moins 11 millions de cas supplémentaires qui se sont ajoutés en 2023. Alors, et là, vous allez voir que toujours selon les statistiques, ce sont les enfants de moins de 5 ans qui souffrent beaucoup, qui sont beaucoup frappés, autour de 70 à 80% des enfants de moins de 5 ans sont décédés du paludisme.
C'est quoi le paludisme?
Le paludisme, c'est quoi en fait? C'est une maladie, une infection parasitaire. C'est causé par un parasite du genre Plasmodium. Il y en a plusieurs espèces plasmodiales. Et ces parasites est transmis chez l'homme, chez l'hôte, par un vecteur qui s'appelle le moustique. Et les moustiques qui transmettent ces paludismes, ces parasites, s'appellent l'anophèle femelle. C'est l'anophèle femelle qui est le moustique qui nous transmet le paludisme. Alors, lorsque le paludisme est transmis chez une personne, alors il va se développer, les parasites vont entrer dans le corps humain. Et il va se développer en commençant par le foie. Et il va suivre, après le foie, il va être injecté dans la circulation sanguine, donc dans le sang.
Oui.
Et là, il va attaquer les globules rouges, n'est-ce pas? Et quand les parasites vont pénétrer dans le globule rouge, les globules rouges vont finir aussi par éclater parce qu'ils ont un corps étranger dans leur organisme.
Une agression.
Une agression, voilà.
Les globules blancs vont réagir. Généralement, quels sont les globules qui réagissent pour défendre le corps?
Oui, il y a des globules, il y a des mécanismes de défense, effectivement, vraiment, qui seront développés à ces niveaux-là par le corps et l'organisme, et notamment, effectivement, il y a des globules blancs qui seront effectivement là pour venir
à la rescousse.
Les soldats du corps, effectivement. Et effectivement, alors, lorsque les globules rouges sont parasités, ils vont finir par éclater, et l'éclatement de ces globules rouges en libérant les parasites, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il y aura des formes qu'on appelle les mérozoïtes qui seront libérés, et les mérozoïtes, une fois libérés, n'est-ce pas, vont pouvoir entraîner un dérèglement, n'est-ce pas, au niveau de du notre système nerveux. Oui. Et là, vous verrez que nous allons commencer à faire de fièvre. Nous pouvons avoir de frissons,
des
courbatures, de maux de tête, donc des céphalées, et d'anorexie, donc manque d'appétit. Et tout ça déjà, c'est parce qu'on est attrapé maintenant par le parasite et on fait déjà le palu.
D'accord.
Parce qu'on a déjà les signes ou les symptômes du paludisme lorsque le globule blanc, le globule rouge ont éclaté et ils ont effectivement libéré certains pigments qui vont déréglementer notre système nerveux.
Bien, docteur Mario Sungoi Bakua, vous êtes chef de division en charge de la recherche opérationnelle. Alors souvent on parle des malaria 3+, malaria 4+, tout ça. Qu'est-ce que ça signifie tout ça?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je reviens d'abord sur le poids du paludisme, tel qu'a dit le collègue. Nous situons au niveau mondial. Lorsque nous prenons l'Afrique, nous n'avons 4% des cas, tels que l'a présenté le collègue, se retrouvent au niveau de l'Afrique. Des cas. Et le même chiffre qu'il a présenté au niveau de la mortalité mondiale, 95% revient en Afrique. Et par rapport à la RDC, notre pays, nous sommes parmi les 5 top pays. Parmi les 5, nous sommes dans les 5 top là.
Qui sont
nous
plus touchés. Deuxième. Deuxième. Après quel pays?
Après Nigeria. C'est nous après Nigeria. Et ce que j'allais ajouter, lorsque vous revenez chez nous là, en RDC, si vous descendez sur le terrain, vous faites un diagnostic. Sur 1000 personnes, vous avez au moins 221 cas. Ça, nous sommes à l'incidence. Ce que je vais définir l'incidence, c'est
l'incidence, oui.
Ouais, donc, vous recherchez un diagnostic sur 1000 cas, vous allez trouver 221 cas de paludisme.
Ça. Et quelles sont les provinces les plus touchées dans le pays? Est-ce qu'on a une idée?
Très bien. Pour notre pays, c'est toutes les provinces, au moins 97%. 97%.
Toutes les provinces.
97% de l'étendue du pays est endémique. C'est-à-dire par rapport au temps, n'est-ce pas? Par rapport à l'espace, nous sommes là. Nous sommes tous à risque, ce que je veux dire.
Alors pourquoi on parle des malaria 3 plus 4
ben,
plus,
c'est ce que j'ai dit. Tout ça? Là, nous revenons à une question très, très capitale. Pour l'instant, on ne saura plus parler des 3 plus, 2 plus, 2. Parce que nous voulons diagnostiquer lui-là, le parasite tel que le collègue l'a parlé. Et la meilleure façon, ce n'est plus en termes de croix. Ce n'est plus en termes de plus, plus. Bien sûr, avant c'était 0 à 10, c'est 1 plus. Non, laissez tomber ça. Il faut, compter.
Faut compter.
Il faut compter les nombres de trophos. Ça ne suffit en termes de croix.
De quoi?
Nous sommes en train de former tous les praticiens qui sachent que ce n'est plus en termes de croix qu'il faut aller.
D'accord. Quels sont les autres symptômes du paludisme?
Bien sûr, le collègue a parlé,
de
la fièvre, n'est-ce pas, qui peut être, tout cas de fait, ce n'est plus le paludisme. Fièvre irrégulière, vous ajoutez à ça le symptôme d'ordre digestif, donc le vomissement, nausée, tout ce qui est, n'est-ce
des pas. Des maux de tête.
Oui, tout ça, ce sont des symptômes généraux. Lorsque ça apparaît à un autre signe, des gravités, comme a dit le collègue là. Là, ça revient paludisme, mais grave. Laissez-moi vous dire que nous avons
deux formes de paludisme.
Un paludisme simple, n'est-ce pas, tel qu'on l'a dit là, et un paludisme grave. Lorsque s'ajoute cette symptomatologie là, gravité, convulsion, tout ce que vous
voulez. Ah, on peut même arriver à faire des convulsions.
Ouais, c'est ça le paludisme grave.
Souvent, on parle de la méningite.
Potentiellement
c'est ça,
mortel.
La méningite.
Comme potentiellement mortel.
Souvent, on parle de la méningite. Est-ce que c'est ça la forme la plus grave du paludisme?
Non, la méningite, en fait, c'est pas...
ça, c'est une autre maladie. Forme,
ça, c'est une autre maladie qui touche aussi les méninges. Mais le paludisme, dans sa forme neurologique, n'est-ce pas? Et nous avons lorsque le paludisme touche le cerveau, nous avons la forme qu'on appelle la forme neurologique ou les neuropaludismes.
Okay.
Donc, à ce moment-là, c'est provoqué, causé par le plasmodium falciparum qui donne souvent ces formes neurologiques. Donc, c'est vraiment différent de la méningite.
D'accord.
Mais vous pouvez avoir les mêmes signes, n'est-ce pas, qui peuvent, n'est-ce pas, les convulsions, les convulsions à répétition. Ça peut être dans les deux cas, n'est-ce pas, et vous pouvez avoir chez les malades, ce qui peut intervenir dans ces deux, mais il faut diagnostiquer, n'est-ce pas, avec la microscopie, la goutte épaisse, et couplé au frottimètre pour savoir si réellement c'est le paludisme, le neuropaludisme ou la méningite.
Bien, on va accueillir les auditeurs qui sont déjà en ligne. Nous parlons du paludisme, la malaria, comment lutter contre cette maladie. Blaise Saïdi est en ligne depuis Kisangani et Langa Christian nous appelle depuis Bounia. Appelez au 081 82 82 827 pour intervenir. Comment lutter efficacement contre le paludisme? Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani. Bonjour et quelle est votre question?
Oui, merci cher Jody. Merci. Bonjour aux invités de la Radio Capi ainsi qu'auditrices et auditeurs. Cher Jody, la lutte contre le paludisme repose sur une approche intégrée, combinant la prévention, les diagnostics rapides et le traitement efficace. Je dois aller tout juste à quelques questions. Avant d'aller à quelques questions, j'avais vu l'aide invitée avait parlé à propos que non, c'est presque la vie de la République démocratique du Congo à 97%, 87% sont presque touchés par cette maladie. Et j'aimerais un peu demander à l'invité qu'il éclaire un peu la population congolaise. Quels sont les trois pourcentages, puisque c'est 97% qui sont tellement touchés et les 3%. L'invité peut quand même revenir pour ça. Et je dois aller tout juste à la première préoccupation. Quelles sont les principales causes de la persistance du paludisme malgré les campagnes de prévention? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, quelles stratégies communautaires peuvent améliorer l'efficacité des mesures de lutte contre le palu? La troisième question, pourquoi la sensibilisation communautaire ne donne-t-elle pas...
Allô? Allô Blaise?
Allô?
Vous pouvez répondre à la troisième question.
Pour chuter à la dernière question, cher Jody.
Oui.
Quel rôle peuvent jouer les nouvelles technologies dans la surveillance et la prévention du paludisme? Puisqu'on parle toujours du paludisme, est-ce qu'au regard de ces siècles de vitesse...
Allô?
Des techniques pour des maladies. Merci bien.
Bien, merci. Vous avez parlé des nouvelles technologies. On va donner la parole à Christian Elanga depuis Bounia. Bonjour, Christian. Christian Elanga.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, la question que je voulais poser par nos invités, je voulais dire ceci. La maladie des paludisme, ça a fait tuer beaucoup de la population congolaise. Et quand moi je suis ici à Bounia, je vois vraiment dans beaucoup des hôpitaux, moi je pars visiter, je vois la population souffre beaucoup de la maladie là, on appelle les paludismes, même les hémorroïdes. Parce qu'il y a des maladies comme les hémorroïdes internes ou externes qui fait souffrir la population congolaise d'une manière, bon, ça veut dire l'air vivement, ce n'est pas favorable pour être avec cette maladie.
Alors, quelle est la question par rapport à la malaria?
Bon, la malaria, c'est une maladie femelle qui sort dans la moustique. Bon, le gouvernement doit employer la population par les moustiquaires d'abord, parce que même moi, je suis sur la face du gouvernorat, je vois des mamans qui arrivent chez moi, ils disent, oh, nous n'avons pas de moustiquaires à cause de cela que nous prenons des malaria. Donc, on a dit, bon, moi, je suis le docteur, Dieu m'a donné la sagesse et les médicaments, je vais vous donner, Dieu doit vous guérir. Mais là, la soutien là que vous parlez, ça sort par le gouvernement congolais.
D'accord, merci. Vous parlez du soutien du gouvernement par la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et maintenant, Mwanda, vous êtes à Bukavu, bonjour. Éminent Mwanda de Bukavu, bonjour. Voilà, Éminent n'est plus en ligne. Il va certainement nous rappeler. Docteur Marius Ngoy, vous avez la parole.
Merci beaucoup, cher auditeur. Je voudrais vraiment placer le décor sur la prévention et la prise en charge. La prévention, c'est quoi? Le collègue a défini ici, la maladie est transmise par un moustique. Et donc, dans la prévention, nous allons faire un effort de se protéger contre les piqûres là.
De l'anophèle.
Voilà, de ces moustiques là. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose.
Mais parfois, on nous pique pendant la journée.
Ouais, bon.
Vous allez revenir là-dessus. Oui.
Non seulement la protection contre les piqûres, dans la prévention, nous devons prendre aussi des médicaments que nous appelons des médicaments de prévention. Donc, la chimioprévention ou la chimioprophylaxie. Par rapport à la protection contre le piqûre, c'est là où vous trouvez la distribution des moustiquaires.
Nous demandons que
les gens utilisent, n'est-ce pas, les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Nous, dans au niveau du programme, nous distribuons lors des campagnes, comme a dit l'auditeur. Ou en routine, n'est-ce pas? Et lorsque nous allons du côté médicaments, c'est ce que nous donnons, ce qu'on appelle les mamans amènent les enfants à kilo, n'est-ce pas? Ils préviennent non seulement l'enfant et la maman avec la prise des médicaments en oral. Hein?
Ok.
Ça, c'est pour la prévention. Là. Alors, lorsque nous allons dans la prise en charge, je crois que les collègues l'ont bien évoqué ici, vous diagnostiquez d'abord. On vous fait un test de diagnostic rapide où on fait la goutte épaisse. Vous allez à l'hôpital, n'est-ce pas? On vous prend le sang et on va rechercher le parasite qui s'y retrouve. Dans les TDR, là, on recherche des antigènes, n'est-ce pas? Qui sont sur
Et si c'est positif, on vous met directement sous traitement?
Ah, si c'est, on peut vous mettre sous traitement seulement lorsque c'est positif. Donc, une exigence biologique est vraiment capitale. N'est-ce pas? Au niveau stratégique, nous disons, tous les cas qui sont diagnostiqués positifs, les 100% doivent être traités. On doit les traiter avec des médicaments. Nous allons revenir dans les médicaments qu'il faut. Et là, je pense, je parlais sur la prévention, ce que nous voulons,
d'accord.
Et la prise en charge. Une autre question, c'était...
Blaise de Kisangani a dit, quelles sont les causes de la persistance de la malaria malgré les campagnes? Il y a eu beaucoup de campagnes autour de cela, mais la maladie persiste. Pourquoi, docteur Marius?
Très bien. Là, je voudrais vraiment... Ouais, l'écosystème du paludisme. Trois facteurs importants. Le vecteur lui-même, là. Le moustique, tel qu'on a parlé. Le parasite. Le plasmodium, tel que le collègue l'a parlé. Et l'homme, nous, là. OK? Pendant que nous sommes arrangés à chercher des stratégies pour combattre le vecteur, lui aussi se prépare.
OK.
En conséquence... N'est-ce pas? Le parasite également, il se prépare. Lorsque vous venez avec le médicament, il se prépare. Ce qui fait que, pour l'instant, vous allez voir, il y a une résistance déjà avec le médicament que nous donnons, où le parasite se dit non, j'agis autrement. Je crois que ça résiste.
Il développe des systèmes de défense.
Très bien. Oui. Le vecteur, la même chose. Tout ce que nous donnons comme insecticide, ça commence à se faire voir pour l'instant. Il résiste. Et l'homme, nous-mêmes, quid? C'est la question. Et donc, nous devons nous focaliser sur quelles sont les réactions que nous devons avoir par rapport aux parasites, par rapport aux vecteurs, par rapport au, n'est-ce pas, à l'homme lui-même.
Bien. Docteur Dani.
Oui, oui, allez-y. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, je voulais compléter, docteur Marius, par rapport à pourquoi la malaria, le paludisme persiste malgré, n'est-ce
toutes
pas,
les campagnes,
toutes les campagnes, les outils, n'est-ce pas, des protections, les moustiquaires, les outils qu'on utilise, qu'on a mis en œuvre. Vous savez que aujourd'hui, pour parler, pour bien parler du paludisme, aujourd'hui, ce n'est plus un phénomène médical seulement, mais ça devient un phénomène sociétal. Donc la communauté, la société aussi est appelée à s'impliquer, ok, pour pouvoir réduire, n'est-ce pas, l'incidence
de la
maladie. La mortalité. C'est-à-dire
en faisant quoi ? Qu'est-ce que la communauté doit faire ?
Voilà, la communauté doit s'approprier de la lutte et s'impliquer, par exemple, avec l'assainissement. Parce qu'on ne doit pas toujours attendre que le niveau national puisse descendre pour aller assainir son milieu. N'est-ce pas ? Donc nous devons nous-mêmes d'abord commencer quelque part avec des actions communautaires. Et nous devons boucher les caniveaux, les flaques d'eau.
C'est là où les moustiques se développent.
Okay. Si on ne fait pas ça, malgré que nous dormions, on nous distribue les moustiquaires, malgré toutes ces interventions, n'est-ce pas, des moustiquaires qu'on donne, ça ne va pas agir si aussi on ne fait pas des actions d'assainissement du milieu. Donc, et ça, ce sont des actions communautaires que la communauté peut aussi s'engager. Donc, sans que la communauté puisse s'impliquer, n'est-ce pas, dans cette lutte, je pense que les pays qui ont éliminé aujourd'hui le paludisme, c'est parce que la communauté a participé à s'être impliquée dans cette lutte. Et c'est comme ça que aujourd'hui, si la Chine même a éliminé aussi les palus, il y a 2 ans, c'est parce que on a travaillé au niveau de la communauté. Merci.
On va accueillir Chrysostome Maloubekwa depuis Arou, en Ituri. Chrysostome, bonjour. Allô?
En fait, j'avais 3 questions à poser à l'invité.
Oui.
Premièrement, j'aimerais savoir, parce qu'en Italie, il y a tellement de moustiques qui ne croyaient pas, ce ne serait pas en disant qu'il existe des moustiques qui ne transmettent pas les paludismes. J'aimerais demander à l'invité comment s'explique scientifiquement l'accord des personnes qui croient à des croyances pareilles. Et deuxièmement, j'aimerais savoir.
Oui, la première question, Chrysostome, est-ce que vous pouvez la reprendre?
Allô?
Oui, Chrysostome, pouvez-vous reprendre la première question? La première question.
Oui, la première question est que, à Tangani, il y a une croyance de cette laquelle les gens ne croient pas que les moustiques de là transmettent le paludisme. Parce que là, il y a tellement de moustiques que lorsque vous arrivez, on vous dit non, vous ne vous pas. Les moustiques du coup ne transmettent pas le paludisme. Et j'aimerais savoir, est-ce que le pour cette croyance-là demeure?
D'accord, deuxième question.
Oui, deuxième question, est-ce qu'un moustique peut transmettre le paludisme? Parce que, comme question, suffisait qu'un moustique puisse piquer pour transmettre le paludisme. En tout cas, je crois que nous tous, nous avons déjà fait à ça. Et pourtant, on dit qu'il y a des enfants et tout ça, et c'est ce que j'aimerais savoir.
D'accord.
Est-ce qu'un moustique peut piquer ça pour transmettre le paludisme?
Voilà, merci Chrysostome qui nous dit qu'il y a une à Kisangani, les gens ne croient pas que le moustique en vous piquant peut transmettre le paludisme. Eminem Mwanda, vous êtes à Bukavu, bonjour. Eminem Mwanda, bonjour. Bien, je pense qu'il n'est plus en ligne. On va prendre Elvis Londo là de Kinshasa. Bonjour Elvis.
Bonjour, je suis aussi à nos deux invités.
On vous écoute.
Oui, à propos de la malaria, vraiment, c'est y a à boire et à manger. Parce que si nous allons un peu sur le plan de traitement ou sur le plan de prévention, nous avons même des antiseptiques qui ont fait passer par des publicités qui éliminent les moustiques à 99%. Et aussi, pendant les campagnes, on est en train de nous inciter, de nous informer, de pouvoir être toujours sous, de dormir sous la moustiquaire.
Sous la moustiquaire imprégnée, oui.
Mais ça continue toujours. Si aujourd'hui vous allez même à l'hôpital aujourd'hui, car je vous parle là, je peux aller à l'hôpital aujourd'hui pour me consulter, peut-être j'ai un mot de tête, on va me trouver avec une dose de la malaria. Alors, je voulais poser une question, ou deux, ou trois. Première question, est-ce que on peut dire que la malaria devient comme une maladie héréditaire chez nous? Parce que même, un nouveau-né qui naît peut naître avec une maladie, c'est la malaria. Et des deux, est-ce que la malaria est-elle aussi une maladie transmissible, sexuellement transmissible? Ça peut se transmettre par les rapports sexuels. Voilà ce que je voulais demander comme question.
Bien, merci Elvis. Pierron Pagna, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aux invités, à tous les auditeurs de la radio au Capi. Malgré que ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas passé, j'appelle comme un activiste de la société civile santé ici à Lubumbashi. Ce sont des cas, je suis aussi un expert en santé publique et ce sont des cas que nous... personnellement, nous sommes en train de suivre. J'aimerais parler comme un professionnel parce qu'il y a des questions qui m'arrivent lorsque je suis à la lettre ce que les invités parlent. Ils ont dit que le PALI étant un vrai problème des défis de santé publique dans notre pays. Et ils nous exigent trois combinaisons de stratégies. Ils ont dit la stratégie préventive, la stratégie curative et la stratégie communautaire. Chers invités, veuillez écrire mes questions selon ce que vous avez parlé des stratégies-là. Je parle de la première question qui me vient, c'est du point de vue prévention. Dans le cas de la prévention, une première question est de savoir comment le PNLP s'assure-t-il que les communautés utilisent correctement les moustiquaires imprégnés d'insecticides? Parce que nous étant les hommes de terrain, nous savons ce qui se passe. Surtout les gens des coins très reculés, pour eux, vous leur donnez les outils de pêche, d'agriculture et autre chose. Alors, comment PNLP s'assure-t-il que les communautés utilisent correctement
les moustiquaires imprégnés? D'accord.
La première question. La deuxième question, pensez-vous que sans passer par la lutte anti-larvaire, même avec la présence d'un vaccin, on mettra fin au pari? Sinon, dans notre pays, le vrai problème, c'est pas prendre le médicament, c'est pas donner seulement le moustiquaire parce qu'on ne peut pas porter le moustiquaire quand on se met dehors pendant la soirée. Alors, et aussi, nous sommes dans une zone endémique. Lorsqu'il y a une zone endémique, même si on vous fait un test rapide et que ça sort négatif, ce n'est pas dire que vous n'avez pas le PALI. Nous, selon ce que nous avons appris, il faut passer d'abord par un traitement préventif. Alors, le traitement préventif, il y a plusieurs médicaments, notamment des pancidards. Alors, comment on peut nous expliquer? Parce qu'en Afrique du Sud, par exemple, on part dans des forêts où on met des insecticides, on le met dans des forêts où il y a beaucoup de moustiques pour commencer à chasser ces moustiques-là. Alors, sans passer par cette méthode-là, est-ce que vous pensez que nous allons mettre fin au PALI? Ça, c'est côté c'est des questions côté prévention. Les questions côté curatif, je voulais poser aux invités, comment le PNLP déploie la chimio-prévention saisonnière? Ça, c'est une question que c'est purement scientifique qu'ils ont intérêt à me répondre. La deuxième question, quelle est la position du pays sur le vaccin? Nous devons connaître, parce que nous sommes les hommes de terrain, nous savons que c'est un grand défi. Et pour citer, côté communautaire, je voulais parler du côté communautaire.
Rapidement, quelle est la question? Rapidement, Pierrot, rapidement, les autres attendent. Quelle est la question?
Comment les relais communautaires sont-ils intégrés dans la lutte contre les paludes, surtout pour le suivi et l'éducation sanitaire?
Merci beaucoup. Merci à vous. Jeannot Louemboué, vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Je salue M. Jody, je salue tous les auditeurs et nos invités.
On vous écoute.
Je finirai mon intervention par une question. Mais j'aimerais ici que nous sachions que ce n'est pas parce que l'auditeur a dit, l'invité a dit que nous faisons partie de 5 pays. Il a utilisé le mot top. Que cela donne réjouir pour dire ouais, top, ça veut dire haut. Non. C'est dans le mal. Malheureusement, notre pays, quand c'est dans le mal, on est parmi les top. Quand c'est dans le bien, on est parmi le sol, malheureusement. Nous vivons dans une zone tropicale, comme on dit, il pleut beaucoup, il y a beaucoup d'humidité et de chaleur. Ce qui favorise aussi la malaria. Nous ne sommes pas le seul pays vivant sous cette zone-là. Les invités ont dit qu'il y a de ces pays comme le nôtre, mais qui ont trouvé solution à cette maladie. Qu'est-ce que la RDC, notre pays, qu'est-ce que nous faisons pour que nous fassions comme les autres?
Pour éliminer la malaria.
Nous avons le temps d'aller copier chez les autres.
Allô? Allô? Désolé, on a perdu Jeannot, il n'est plus en ligne. Voilà. Pourquoi ne pas copier les autres? Comme vous avez dit tout à l'heure, la Chine a éliminé la malaria. Pourquoi on ne peut pas aussi faire autant? Docteur Mario Sungoy, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je suis vraiment en train de féliciter les collègues qui sont en train de nous dire l'aspect communautaire. Nous avions bien dit il faut faire un effort de se débarrasser dans notre milieu, dans notre environnement, des choses qui peuvent favoriser la prolifération, n'est-ce pas, des moustiques.
Des moustiques, comme quoi? Les flaques d'eau.
Voilà, vous en savez peut-être.
Les flaques d'eau, la saleté.
C'est pratiquement ça. Il faut s'en débarrasser, ça c'est tout ce qui peut être par rapport à la communauté. Alors, il a parlé, est-ce que je peux dire, les changements de comportement de 3 niveaux là. Prenons avec l'homme. La non-utilisation, on vous dit que c'est le moustiquaire, n'est-ce pas, qui nous aide à nous protéger contre
les piqûres des moustiques. Mais il y a des gens qui utilisent ces moustiquaires pour aller faire la pêche.
C'est ça, nous déconseillons ça avec la sensibilisation qui se fait. Chaque fois qu'on met, n'est-ce pas, nos campagnes en œuvre, on passe devant la population. Toutes les forces vivent pour que il garde le vertu tel que nous le faisons.
Alors, Pierrot vous a posé la question de savoir comment s'assurer, le programme s'assure que les bénéficiaires utilisent ces moustiquaires. Docteur Dany.
Oui, comment s'assurer que le bénéficiaire utilise
réellement
voilà, les moustiquaires
pour dormir et non pas pour aller faire la pêche.
Voilà, pour dormir. Nous avons des études et des enquêtes qui se font au niveau pays, au niveau de la communauté, au niveau de ménages, n'est-ce pas, qui reçoivent ces moustiquaires. Il n'y a pas longtemps que il y a eu une grande étude, une étude de grande envergure.
Un instant, on me fait signe que Jeannot Louemboué est de nouveau en ligne. Jeannot, vous êtes là?
Oui, monsieur Joubi, je suis là. Je ne sais pas si ma question avait été comprise.
Oui, mais oui, allez-y.
Je disais, comme nous ne sommes pas le seul pays étant sur une zone tropicale,
oui,
et que les autres comme nous ont pu trouver solution et ont pu mettre ou diminuer le taux de malaria dans leur pays, qu'est-ce que nous faisons? Ou pourquoi, qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi nous attendons? C'est ça la question. Pour pouvoir aller copier chez les autres. Parce que le monde aujourd'hui, c'est un monde de copier-coller. On copie ce qui est du bien de chez les autres pour coller chez soi. Qu'est-ce que la RDC fait pour que nous puissions faire comme les autres afin de diminuer ce problème de malaria qui a vraiment tué beaucoup de nos enfants et de nos femmes enceintes, bien sûr.
Merci Jeannot. Merci Jeannot Louemboué depuis Kolwezi. Docteur Dany Kasumba.
Merci beaucoup. Donc je disais qu'il y a une étude de grande envergure nationale qui a eu lieu il n'y a pas une année, donc 2023-2024. Ce qu'on appelle l'enquête démographique et de santé, EDES, donc qui a démontré, n'est-ce pas, parce que c'est une grande enquête qui s'est faite au niveau pays, une enquête nationale, et qui sont descendus dans les ménages, dans les communautés, pour avec des outils standardisés, des questionnaires standardisés, n'est-ce pas, pour pouvoir collecter toutes ces données d'utilisation de nos moustiquaires. D'abord, il y a la possession. Donc, je peux dire à notre auditeur qui a posé cette question,
de Lubumbashi,
bien sûr, Pierrot, nous avons deux statistiques de cette enquête démographique de santé qui a démontré que il y a 69%, n'est-ce pas, de ménages ont possédé des moustiquaires, n'est-ce pas, lors de l'enquête nationale. Donc 69% ont possédé des moustiquaires et 50% utilisaient ces moustiquaires, c'est-à-dire ils dormaient sous cette moustiquaire qu'ils possédaient. Donc si la possession s'améliore, si on a une bonne possession de moustiquaires au niveau des ménages, et même l'utilisation s'améliore aussi. Donc nous savons, l'EDES de 2013-2014 avait montré une très très faible, un taux faible d'utilisation des moustiquaires, donc les gens dormaient à peine, mais cette fois-ci, et je crois que la population a pris conscience avec les campagnes de sensibilisation lors de campagnes de masse, notre population a pris conscience et ils commencent réellement à utiliser ces moustiquaires, donc ils dorment sous ces moustiquaires, nous sommes au moins à 50%. C'est encore faible, mais on voit que les statistiques montrent qu'il y a quand même une évolution par rapport en 2013 et 2014 où cette étude a eu lieu avant celle de l'année passée.
Merci. D'accord. Chrysostome, depuis Haru, dit que les gens ne croient pas que les moustiques peuvent transmettre la malaria.
Le moustique que nous appelons l'anophèle femelle, parce que ce n'est pas tout moustique.
Okay.
Vous devez, du point de vue entomologie, on va vous dire qu'il y a plus de 400-500 espèces, n'est-ce pas, de moustiques, et toutes ces moustiques-là ne transmettent pas réellement le paludisme ou la malaria. Ce n'est que ici chez nous, il y a une cinquantaine d'espèces, n'est-ce pas, qui peuvent transmettre la malaria. Et là, nous avons en premier lieu, nous avons l'anophèle gambier qui est majoritaire dans notre pays, qui est un moustique qui nous transmet beaucoup plus la malaria. Il y a aussi l'anophèle funestus qui transmet secondairement la malaria. Nous avons d'autres espèces, notamment l'anophèle mouchetti, l'anophèle nili, kustani, ziemani. Ce sont ces espèces anophéliennes qui peuvent nous transmettre le paludisme. Les autres moustiques, il y a des Aedes, ce sont aussi des moustiques. De Mansonia, ce sont aussi des moustiques. Mais ils transmettent d'autres pathologies, notamment de fièvre jaune, et non nécessairement la malaria. Et ensuite, parmi ces moustiques, nous avons le culicine, n'est-ce pas, le culex, qui aussi ne transmettent pas la malaria, mais ce sont des moustiques qui nous font la nuisance sonore. Donc, ce sont des moustiques qui nous dérangent beaucoup plus, mais ils peuvent piquer parce qu'ils se nourrissent que du sang humain.
Okay.
Donc, pour que le moustique puisse se développer, puisse se produire, se multiplier, il doit piquer, n'est-ce pas, sucer le sang humain pour pouvoir se multiplier, aller pondre et faire la procréation. Voilà un peu ce que je pourrais dire.
Mais on peut bien dormir sous la moustiquaire, mais dans la soirée, devant la télé, on peut vous piquer à ce moment-là et vous attrapez la maladie.
Tout à fait. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le changement de comportement des moustiques. Donc nous faisons des études de bionomie. N'est-ce pas? Nous capturons les moustiques. Moi, je viens des Inongo, où je suis allé capturer les moustiques pour connaître si les moustiques ont changé de comportement. Aujourd'hui, les moustiques commencent déjà à piquer à 18h, voire même avant, à 14h. Vous
déjà,
comprenez?
Donc,
il faut qu'il y ait des études, des évidences, pour confirmer qu'à 14h, mais il y a déjà des littératures qui ont démontré ailleurs dans d'autres cieux que ça commence un peu trop. Mais ici chez nous, à 18h, déjà, nous avons des piqûres de moustiques anopheliennes. Voilà, donc nous devons changer de stratégie.
Oui.
Nous devons avoir un comportement, n'est-ce pas, adapté pour faire face à ces piqûres de moustiques. C'est pourquoi nous parlons, par exemple, des stratégies comme la pulvérisation intradomiciliaire. Lorsqu'on est dans la maison à 18h, en train de suivre sa télé, on peut pulvériser
dans les chambres,
dans le mur, n'est-ce pas, parce que le moustiquaire se trouve uniquement dans les chambres. Et au salon, là où nous suivons la télé, nous regardons la télé, nous pouvons utiliser un moyen de lutte antivectorielle qui est la pulvérisation intradomiciliaire, c'est-à-dire on va pulvériser les murs de la maison avec un insecticide remanent qui va rester pendant 6 mois au mur, et quand le moustique vient se poser sur le mur, il va, n'est-ce pas, inhaler cet insecticide et il va être tué.
Est-ce qu'on trouve aussi cet insecticide-là sur le marché? Apparemment, c'est différent des autres insecticides qu'on nous vend.
La pulvérisation intradomiciliaire utilise parfois, il y a des insecticides de famille tels que les organophosphorés, parce que les carbamates, mais les moustiquaires que nous utilisons sont imprégnés aux insecticides qu'on appelle de famille pyréthrénoïdes. Deltamétrine, alpha-cypermétrine, pyrimétrine. Donc ce sont aujourd'hui ces insecticides-là, comme Dr Marius l'a dit, commencent à être résistants, n'est-ce pas, vis-à-vis à l'insecticide. Et même si on dort sur une moustiquaire qui est imprégnée, lorsque la résistance a été documentée dans le coin, dans la zone, dans la province, à ce moment-là, on sera piqué. Il faut changer.
Il faut changer de méthode.
Bien. Il faut changer d'insecticide.
Docteur Marius, un instant. Allez, on va donner la parole à Éminent de Bukavu. Éminent, bonjour. Quelle est votre question rapidement?
Bonjour, monsieur. Je dis bonjour à tous ceux qui nous accompagnent. Ma question est de savoir, est-ce que les insecticides qu'on vend aux habitants sont tous des éléments qui peuvent aider la communauté, c'est-à-dire la famille de chasser des moustiquaires, des moustiquaires. Parce que c'est très bien que la lutte de l'organisme a été dit depuis la coordination multisectorielle, Alors, je sais très bien que cette émission est une émission que nous avons dit la part partie sur la mentalité, mais je sais, Nous sommes tous victimes du radicalisme, mais je veux que
Alors, on vous capte difficilement. La communication n'est pas très bonne, mais on a quand même suivi la question. Est-ce que les insecticides qui sont vendus sur le marché peuvent aider? Merci beaucoup. Il y a Elvis Londola qui a posé la question de savoir si la malaria est une maladie héréditaire ou sexuellement transmissible. Docteur Marius Ngoy.
Merci beaucoup. Là, il faut qu'il se calme. Ce n'est pas hérédité parce que
elle n'est pas aussi sexuellement transmissible.
Je ne sais pas ce que le parasite est connu, n'est-ce pas, et avec le vecteur.
Oui.
Ce que je voudrais insister, c'est quels sont les outils, que ça soit au niveau supranational, au niveau mondial, n'est-ce pas, et au niveau pays. C'est hyper important. Nous avons au niveau mondial la stratégie technique de lutte contre le paludisme 2016-2030, qui nous donne, n'est-ce pas, des échéances, des jalons qui nous amènent vers l'accélération des progrès pour contrôler ou soit éliminer le paludisme. Mmh. Ça, c'est un document hyper important que tous les pays, n'est-ce pas, s'alignent. Je peux citer également les objectifs de développement durable, les ODD que vous connaissez. Lorsque vous prenez la cible 3 qui vise à mettre fin à 3 maladies, les sida, la tuberculose, le paludisme et bien sûr d'autres maladies tropicales négligées.
Mmh.
Et au niveau secteur, nous au ministère de la Santé, nous avons un plan national de développement sanitaire 2024-2033. Ça, c'est au niveau du ministère. Au niveau du programme de lutte contre le paludisme, nous avons un plan national stratégique.
D'accord. Quelqu'un a dit, est-ce que vous intégrez les relais communautaires? dans la sensibilisation, tout ça, contre
absolument, absolument, nous avions dit ici. Mais c'est eux qui sont en opérationnel.
Ok.
Ils passent
porte à porte.
Voilà, 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 pour sensibiliser les gens. Lorsque nous avions dit ici, il faut se débarrasser, n'est-ce pas, de tout dans notre milieu, tout ce qui peut être capable à ce que
favoriser le développement des moustiques.
Voilà.
Notamment la saleté, il faut assainir l'environnement. Voilà, et il y a Pierrot qui a parlé de la lutte anti-larvaire. C'est cela dont vous faites allusion?
La lutte anti-larvaire, parce que dans le développement du moustique, il y a une partie qui est dans l'eau, et l'autre que vous voyez maintenant sur le moustique. Mmh. La partie-là qui se passe dans l'eau, c'est cette partie-là que nous allons appeler dans la lutte antivariale.
Mmh. Il a parlé aussi du traitement curatif au fansida, le traitement chimio-prévention saisonnière, etc.
C'est que lorsque nous avions planté les décors, on s'est dit,
oui,
soit on est dans la protection, n'est-ce pas, de piqûres, ou soit on prend des médicaments. C'est ça la chimio-prévention.
Okay.
Il a cité le médicament comme la fansida, n'est-ce pas, où nous donnons aux femmes qui sont grosses.
Les femmes enceintes.
Les femmes enceintes et les enfants, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il parle encore de la chimio-prévention?
Oui, oui, la chimio-prévention saisonnière, docteur Dany.
Merci beaucoup. La chimio-prévention saisonnière, ou la chimio-prophylaxie du paludisme saisonnier, c'est une intervention spécifique de la prévention, n'est-ce pas, et notamment comme le vaccin antipaludique, comme la chimio-prévention du paludisme pérenne, CPP, donc, ou bien les TPI du nourrisson qui se donnent chez les enfants de moins de 5 ans.
Oui.
Donc la chimio-prophylaxie saisonnière, nous avons introduit ça, ou c'est en cours d'introduction, dans la province du Haut-Katanga, dans les 6 zones de santé. Et après, on va passer dans la province de Lualaba, parce que dans ces deux provinces, il y a un problème de saisonnalité du paludisme. C'est-à-dire, c'est une méthode, la chimioprévention, une intervention recommandée par l'OMS.
Oui.
Lorsque la saisonnalité, n'est-ce pas, est courte, n'est-ce pas, notamment 4 à 6 mois. Vous voyez, aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, vous avez 4 à 5, 6 mois de saison de pluie, n'est-ce pas? Et le reste du temps, c'est la saison sèche.
Docteur Dany, on s'achemine vers la fin de cette émission. Merci. Aujourd'hui, on parle du vaccin. Il y a même un vaccin contre la malaria.
Tout à fait. Il y a un vaccin contre la malaria qui constitue... Ce sont des outils innovateurs aujourd'hui dans la lutte contre le paludisme avec la chimioprévention, chimioprophylaxie. Et aujourd'hui, les vaccins aussi, au niveau pays, nous avons adopté, n'est-ce pas, la vaccination contre le paludisme chez les enfants de 6 à 23 mois.
Pas chez les adultes, hein?
Pas chez les adultes d'abord.
Okay.
Donc, c'est une recommandation de l'OMS pour les pays qui sont les pays endémiques du paludisme. Et lorsque nous sommes aussi dans la forte transmission, dans la transmission élevée du paludisme. Donc, aujourd'hui déjà, on a introduit le vaccin dans les blocs 1,
d'accord,
9 provinces, en citant Congo central, Maïndombe, et l'Équateur, on a déjà introduit Mongala, le vaccin antipaludique, et il y aura un deuxième bloc d'introduction de vaccins de 7 provinces. Chopo, Bazuele,
merci docteur, on a pris beaucoup de temps, on est presque.
C'est pour protéger nos enfants de moins de 5 ans
contre la malaria,
contre qui font surtout le paludisme grave.
D'accord, docteur Marius, Jean-Noël Wembwe, rapidement, il a dit, mais la Chine, vous avez dit ici que la Chine a éliminé la malaria, pourquoi nous on ne peut pas aussi éliminer?
Nous sommes dans cette voie, c'est que je parlais de ces outils-là.
Oui.
Nous nous sommes dit au niveau mondial jusqu'en 2030, nous allons aller dans l'élimination. Mais il est important qu'on sache, l'élimination du paludisme, c'est localisé. Ce n'est pas que tout le temps le pays, du coup, On ne trouve
même pas c'est localisé. Merci beaucoup, docteur Mario Sungoy.
Oui, localité, si.
On a pris beaucoup de temps. Je rappelle que vous êtes chef des divisions en charge de la recherche opérationnelle au PNLP. Nous disons aussi merci à docteur Danny Kasongo, expert en paludologie et chef des services de la surveillance intégrée et faire reculer le paludisme, cadre au programme national de lutte contre le paludisme. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Excellente journée et à la prochaine.